Vous êtes sur RTL. En direct du Studio 11, au 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine, on défait le monde dans RTL Soir, saison 2, épisode 6. Cyprien Signy.
Cyprien Signy et compagnie. Il y a Céline Landreau, bien sûr, Brice Dugénie, Laurent Tessier, Greg Omanette. Bonsoir tout le monde. On va vous accompagner jusqu'à 20h, vous apprendre plein de choses, bien sûr. Vous commentez, vous réagissez, le compte Twitter à disposition, vous avez la page Facebook de l'émission. Et puis à la fin de tout ça, le célèbre podcast. J'adore. Cyprien, voici le sommaire de ce vendredi, les 19h19.
Cette semaine, direction les coulisses de l'armée de l'air. Comment vivent les Top Gun de Saint-Dizier qui ont affolé l'Île-de-France cette semaine? Immersion supersonique à 10 000 mètres d'altitude. Covid, crise économique, peur de l'avenir. Vivons-nous l'une des périodes les plus anxiogènes de l'histoire? L'excellent sociologue Jean Viard sera là pour nous éclairer. En écoutant On défait le monde, vous découvrirez qui est le loser, le grand perdant de la semaine. Et ce soir, Céline, couvrez ce sein que je ne saurais voir.
Avec ou sans soutien-gorge, quand un sondage de l'IFOP passe mal.
L'info qu'on n'oublie pas dans le billet retour de Brice Dugénie. Ce soir, Brice, vous nous ramenez au Niger.
Oui, près de 2 mois après l'attaque meurtrière, comment l'ONG Acted travaille aujourd'hui au Niger?
Vous connaissez la formule, d'ici 20h, vos 3 infos pour briller au dîner. Vos initiatives les plus inattendues dans Marche ou Rêve, avec ce soir la découverte du Lotodrive. Alors je vous en dis pas plus, mais ça vaut le coup de rester avec nous. Enfin, un cadeau complètement fou, une semaine au ski pour 4, rien que ça. Le jeu et sa fameuse question, ce sera vers 19h40. On défait le monde, saison 2, épisode 6.
Allez hop, on y va, aventure, nous voilà.
Le monde dans RTL Soir.
Il y aura Monsieur Cadeau tout à l'heure en direct.
Absolument, il est là, il se prépare.
Formidable. Mais bien sûr.
Il est déjà là.
Il est déjà là.
Il est déjà bouillant.
Il est chaud.
Le surf de la semaine, Cyprien, c'est parti pour ce vendredi.
Et cette semaine, les amis, la force du karma est revenue en pleine face de l'actualité. Oui, le destin s'est montré impitoyable avec évidemment la nouvelle du jour.
Le président américain testé positif au coronavirus.
Donald Trump positif, lui qui il y a tout juste 2 jours se moquait pourtant de Joe Biden et de son masque à la télé.
When needed, I wear masks.
Okay, let me ask.
I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from
me. Bon, on se moque de Biden qui porte le masque tout le temps, même quand il est à 200 mètres de vous et qu'il a le plus gros masque qu'il a jamais vu. Bref, sale retour de bâton pour le président américain, mais qu'il se rassure, il n'est pas la seule victime du karma de la semaine. Vous connaissez Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou, mais aussi double casquette, maire de la Garenne-Colombes, homme politique encarté Les Républicains. Bon ben lundi, il lançait un appel sur RTL.
C'est ça qu'il faut comprendre, qu'il nous faut des moyens. En fait, c'est un problème de moyens matériels, des hommes et des femmes. C'est ça notre sujet.
Des moyens pour l'hôpital, il nous faut des moyens. Et là, attention, l'archive qui fait mal, 2009, hein, le même Philippe Juvin qui expliquait sa vision pour résoudre les problèmes à l'hôpital.
Il faut sortir de la logique du toujours plus de moyens et repenser quoi ? L'organisation de l'hôpital public. C'est qu'il faut sortir de la logique du toujours plus de moyens.
Oui, celle-là, elle est dure à entendre, mais bon, c'est comme ça. Sinon, cette semaine, Didier Deschamps a annoncé sa liste de joueurs pour l'équipe de France.
Direction le siège de la Fédération Française de Football, la liste de Didier Deschamps.
Bonjour à tous et à toutes. Donc la liste... Oh putain, je suis pas le bon.
La boulette, pour moi, mais non. Il avait oublié de prendre la bonne liste. Bon, ça arrive, hein. J'ai bien failli venir avec ma chronique de la semaine dernière, moi. Et ça aurait été dommage, hein, puisque cette semaine, on a eu aussi des nouvelles d'Edouard Philippe. Doudou Philippe, qui depuis qu'il a quitté Matignon, s'est affranchi d'à peu près tous les carcans de la vie et de toutes les règles, hein. Il fait un peu ce qu'il veut.
Vous laissez combien de temps pour répondre?
Normalement, on devait avoir fini maintenant, mais allez-y.
Ok. Je vais vous répondre.
3-4 minutes.
Ouais, mais ça va peut-être durer un petit peu plus. Oh. Vous allez voir.
Ouais, je m'en fous, ça va durer des plombes, c'est comme ça. On dirait Brice Dugénie quand on lui dit que sa chronique est trop longue avant l'émission. Sinon.
C'est moche.
Oui, mais c'est vrai.
Non, mais
sinon,
c'est moche.
Soulignons ce lapsus de la semaine sur TF1. Il est tout mignon, celui-là.
Julien Alaphilippe, le Français a remporté aujourd'hui le titre de champion du monde de stylisme, de cyclisme, pardon.
Alaphilippe, champion du stylisme. Enfin, restons sur le volet sport de la semaine, puisque dans la liesse populaire et sous un soleil automnal a démarré Roland Garros. Oui, Roland Garros. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, le soir, j'aime bien écouter les flashs de Céline Landreau sur RTL pour avoir un petit bilan de la journée. Oui, parce qu'en plus d'être la caution intellectuelle de cette émission, elle présente aussi les infos et... Avec les Français à Roland-Garros cette semaine, on sent qu'elle s'est régalée. Lundi soir.
Roland-Garros, c'est une journée difficile pour les Français.
Ça commence mal. Mardi soir.
Le ciel était gris au-dessus de la porte d'Auteuil aujourd'hui. À l'arrivée, c'est une journée noire pour les Français.
Un jour sans fin. Mercredi soir.
Roland-Garros. Les jours se suivent et se ressemblent pour les Français.
La tristesse. Vous noterez quand même qu'elle arrive à changer les formules tous les jours.
Mais oui, mais non, c'était plus une journée noire. C'est fort.
Ouais, c'est bon.
Bravo.
En tout cas, au bout du rouleau, Céline, t'inquiète, avec un peu de chance, normalement, même si ça gagne un peu aujourd'hui, hein, lundi prochain, il n'y en aura plus de Français. Et rien que pour lui faire plaisir à Céline, vivement la semaine prochaine.
Le surfeur Cyprien Signy, très bon début de soirée à vous tous. On défait le monde jusqu'à 20h, il est 19h24.
On défait le monde sur RTL.
Place à la grosse info, Cyprien, qui concerne la police de l'air.
Oui, on en a beaucoup parlé, peut-être un peu trop même hein, cette semaine. Cet avion Rafale qui a passé le mur du son au-dessus de la région parisienne et dont le bruit a affolé l'Île-de-France. Mais cet événement nous a surtout rappelé qu'en France aussi, on avait des Top Gun, une armée de l'air prête à bondir à tout moment. Des hommes et des femmes surentraînés en permanence sur le qui-vive. Brice, grand reporter au service étranger, faut-il le rappeler. Vous les connaissez bien, ces pilotes, et ce soir, bah, vous nous faites pénétrer dans les coulisses de cette police de l'air.
Oui, la PO, en fait, la permanence opérationnelle. C'est une astreinte qui est assurée par les pilotes de chasse, une astreinte de 7 jours, 24 heures sur 24. Alors ça se passe en bout de piste de décollage, il faut bien imaginer un bâtiment juste à côté des hangars où sont stationnés les deux avions de chasse de permanence. Dans ce bâtiment, il y a tout ce qu'il faut pour passer le temps. Une salle de sport, un salon, une télé, une cuisine, des chambres, le plus souvent avec deux lits, c'est quand même pas le grand confort. Ouais. Ça ressemble un peu à une colocation, en fait. Ça va durer une semaine avec des pilotes en alerte qui vivent en combinaison verte. Ils jouent aux cartes, ils mangent, ils regardent la télé, parfois même ils dorment en combinaison de vol en cas d'urgence.
Et donc pendant une semaine, bah, ils attendent.
Oui, ils attendent une urgence absolue. Absolument confinés dans ce bâtiment, ils n'ont pas le droit d'en sortir. La permanence que j'ai pu visiter sur la base d'Orange dans le Vaucluse, il y avait deux pilotes et une équipe de mécaniciens qui sont là évidemment pour assurer la maintenance s'il y a un problème sur les avions.
Et ce sont eux qui ont décollé avant-hier.
Absolument. En fait, l'engagement de l'armée de l'air, c'est qu'un pilote, n'importe quand dans l'année, doit pouvoir décoller en moins de 7 minutes et se trouver à côté de l'avion qui pose problème en moins de 15 minutes n'importe où dans le ciel français. Alors il y a plusieurs bases aériennes qui assurent ces astreintes en même temps sur le territoire. Donc évidemment, en cas de problème, on sollicite la base la plus proche pour un souci d'efficacité.
Alors Brice, ok, il arrive à côté de l'avion, mais une fois en l'air, il fait quoi?
C'est vrai que c'est compliqué. Alors,
justement, il peut pas prendre les commandes et ça dépend de la situation. Si c'est un problème de radio, comme c'était le cas avant-hier, que l'avion ne parvient plus à communiquer, eh bien le Rafale va s'approcher tout simplement à quelques mètres et il va rendre compte de ce qu'il voit au centre de commandement, comme sur cet extrait de film de l'armée de l'air.
Marine Air Vox 61, c'est un avion léger civil blanc de type Kodiak, aile haute, mono turbopropulseur, 3 personnes à bord.
Voilà, 3 personnes à bord. Il décrit la situation, évalue une éventuelle menace. Sans radio, il communique avec des gestes, donc il doit vraiment s'approcher à quelques mètres. Alors ça peut être aussi une panne ou bien tout simplement un avion de tourisme perdu. C'est le cas sur cette autre séquence, discussion entre un pilote de chasse et un pilote du dimanche.
J'ai un bon contact sur vous, il va falloir suivre mes indications pour que je puisse vous ramener. Si vous descendez trop, ça peut être dangereux, monsieur.
Là, un macfou à tenir la hauteur. Écoutez, on est en train de se paumer. Aidez-nous.
Oui, je vais vous aider, ne vous inquiétez pas. S'il vous plaît, prenez le Cap Nord. On traversera la couche ensemble à l'issue.
Continuez à descendre.
Vous entendez, le pilote parle en permanence et le Rafale va raccompagner comme un ange gardien cet avion jusqu'à son aéroport d'atterrissage.
Bon, là, c'est tout va bien, même si c'était un pilote du dimanche un peu paumé. Si c'est un acte de terroriste ou de détournement?
Alors là, il y a une autre procédure, évidemment, avec une gradation. D'abord, des avertissements en liaison radio, puis quelques manœuvres pour impressionner et montrer que l'avion de chasse est armé, éventuellement des tirs de semonce. Et la suite est décrite par un pilote sur France Télé lors d'un exercice en Île-de-France.
Si l'infraction commise est avérée en vue de nuire à l'Île-de-France, eh bien à ce moment-là, on a la possibilité d'intervenir et sur ordre du Premier ministre d'intercepter et de détruire l'appareil si besoin.
Intercepter.
La pression sur Jean Castex.
Voilà, intercepter, détruire l'avion si besoin. Le Premier ministre, il prend cette décision, mais évidemment, cela se fait avec des conseillers militaires autour de lui qui lui permettent d'appréhender la menace et d'évaluer la situation.
Et alors, on peut le dire, hein, mes auditeurs dans la confidence, vous avez volé sur un Rafale, Brice. Alors, toute la semaine à la rédaction, on se dit, mais alors, ça fait quoi de passer le mur du son? Vous l'avez fait?
Alors, oui, on a passé le mur du son. Enfin, c'est pas moi qui avais les commandes, hein, mais on avait passé le mur du son en Rafale. À l'intérieur, on se rend pas tellement compte parce que l'accélération, en fait, elle est régulière. Elle est linéaire et vous n'entendez pas le bang qu'on a pu entendre au sol. En revanche, c'est les changements de direction où là, vous allez absorber ces fameux facteurs de charge. Ça se mesure en G. Et là, c'est parfois un peu compliqué.
Et vous avez vécu ce qu'on appelle le walk of shame.
Ouais, ça c'est descendre de l'avion avec une poche que vous avez remplie pendant le vol avec
quelque chose. Pas qu'ils le disent,
quand vous n'êtes pas très... Merci Cyprien, on avait dit qu'on n'irait pas jusque là, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Vous l'avez fait avec délicatesse.
Évidemment.
Grosse info ce soir dans Défait le Monde, 19h28. Restez là, première info pour briller au dîner les amis. C'est dans une poignée de secondes, à tout de suite.
RTL Soir, on défait le monde. On défait le monde dans RTL Soir.
C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est la première en ce vendredi soir. Première info pour briller au dîner, c'est avec Laurent. Vous nous parlez d'un rat, vous.
Oui, un rat africain géant. Une superstar, son petit prénom, Magawa. L'association britannique de protection des animaux lui a décerné une médaille d'or pour sa bravoure. C'est très sérieux. Magawa va avoir 6 ans, c'est le champion. Il a déjà découvert 39 mines antipersonnelles, 28 restes d'explosifs de guerre au Cambodge. Ouais. Et tout son travail a permis de vraiment de sauver des vies et de déminer l'équivalent, écoutez bien, de 20 terrains de football. Un palmarès au top. Et c'est là où vous allez briller, les amis, parce qu'un rat travaille bien plus vite qu'un détecteur de métaux. Pour vous rendre compte, Magawa fait 70 cm. Il passe au peigne fin l'équivalent d'un terrain de tennis en 30 minutes. Avec un être humain comme Brice équipé de son détecteur, la tâche prendrait 4 jours. Ouais. Et pour ça, une association belge les entraîne pendant un an à détecter le TNT contenu dans les explosifs en Tanzanie, le pays d'origine de ce type de rat. Donc, vous tracassez pas avec un détecteur sur la plage l'été prochain. Trouvez votre Magawa.
Enfin, les gens cherchent pas des mines sur les plages non plus.
Non, c'est pour autre chose. Mais on peut lui apprendre d'autres trucs, quoi. Ouais, on peut élever les rats.
C'est première info pour briller au dîner. C'était Magawa avec Laurent Tessier, 19h33.
Allume la lumière.
Allume la lumière, c'est le moment où un expert éclaire une actualité de la semaine.
Et justement, entre la pression du coronavirus, la crise économique, les attentats.
Oui, il n'y a qu'à voir cette semaine les réactions après le boom au-dessus de la capitale.
Ouais, c'est vrai qu'on était un peu stressé. On a voulu savoir si on n'était pas en train de vivre l'une des périodes les plus anxiogènes de l'histoire. Et pour allumer la lumière sur ce sujet, on n'accueille pas un sociologue, mais le sociologue. Bonsoir Jean Viard.
Bonsoir.
Vous êtes donc l'un des plus éminents sociologues. Hein, wow. Vous venez de publier La page blanche aux éditions de l'Aube, qui justement est une analyse à chaud de la société Covid. Bon, je mets les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce qu'on est en train de vivre la période la plus angoissante de l'histoire ?
Écoutez, moi j'ai 70 ans, c'est une période comme ça, qui est quand même un peu longue, c'est indéniablement la plus angoissante. Hein. Mais vous voyez, je me dis quand même, c'était pire à l'époque des bombardements. Vous voyez, quand les gens, tous les jours, ils savaient pas s'ils allaient prendre une bombe sur la tête, je pense que c'était pire. C'est pour ça, faut quand même relativiser. Et puis c'est pas pareil, parce que c'est à la fois une maladie, c'est une perte de confiance. En fait, on sait absolument pas où on va. Et ceux qui nous gouvernent, les médecins non plus. Quand on voit les émissions télé ou radio, on voit bien qu'il y en a pas deux qui est d'accord avec l'autre, parce qu'on vit dans l'imprévisible absolu. Et je pense que ça, c'est ça qui, au fond, est angoissant.
Et vous parliez des bombardements, c'est vrai qu'à part nos plus anciens, peu de gens aujourd'hui ont connu cette période. Donc pour toute une génération, c'est la première fois qu'on fait face à un avenir aussi incertain, un quotidien aussi incertain.
Moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est que c'est la plus grande victoire de l'humanité. Moi, on parle des bombardements, c'était les autres qui voulaient nous tuer, enfin, ou nous qui voulions les tuer. C'est une volonté de mort. Là, c'est une volonté de vie. On a sauvé des dizaines de millions de gens, de personnes âgées surtout. Il faut se dire, Hitler a tué 50 millions de personnes, par un ordre de grandeur des catastrophes, si vous voulez. La grippe espagnole a tué 50 millions de personnes il y a un siècle. Et pour l'instant, on est à 1 million, c'est énorme, évidemment, pour les médecins, pour les morts, pour les familles. Mais quand même, on a gagné sur la vie. Et je trouve que il faut chanter victoire. Il faut prendre les gens pour des gens responsables. Je crois qu'il y a un an, on savait pas, il y a 6 mois, mais en gros, on a compris que le masque, se laver les mains et arrêter de s'embrasser, ou s'embrasser moins, parce qu'il faut quand même s'embrasser un peu, ben voilà, ça aide quoi.
Ah, vous embrassez un peu, moi j'embrasse plus du tout personne, à part ma femme.
Oui, ben déjà votre femme, vous voyez, c'est dangereux. Oui.
La pauvre. Est-ce que l'anxiété et l'angoisse est toujours proportionnelle au risque ou au danger? Ou est-ce que parfois il n'y a pas une disproportion entre la peur, l'angoisse qu'on ressent et le danger réel?
Ben non, mais évidemment que c'est pas proportionnel, si vous voulez. C'est comme les attentats. C'est, mon Dieu, c'est absolument horrible. Ça a du sens symbolique, politique. Ça tue des gens qui demandaient qu'à faire la fête. On est dans une société en plus, avec les infos en continu, les radios, les télés. Je veux dire qu'il y a une imposition de l'information. Donc je pense qu'on est dans une époque d'excès. Et je pense qu'il faut jamais oublier le rôle des médias dans cette situation qu'on est en train de vivre.
Mais Jean-Vier, vous avez appelé il y a quelques minutes à chanter la victoire dans quelques mois. Et pourtant, cette crise que l'on vit tous, ça peut avoir des conséquences sur les jeunes générations.
Oui, mais il naît une génération 2020. Vous savez, c'est terrible d'être jeune aujourd'hui. Parce qu'en gros, c'est un peu comme les sportifs qui étaient prêts pour les JO. Il n'y a pas les JO. Le type, il était bon pour cette année, quoi. Et là, tous les jeunes qui étaient leur premier amour, leur première aventure, c'était le moment où on allait commencer des choses nouvelles, eh ben, ils le font pas. Et les enfants, je pense que les enfants qui ont entendu parler de la mort tous les jours depuis 6 mois, surtout qu'ils étaient confinés chez eux, ils regardaient la télé en continu, je veux dire, tout ça, ça rentre dans les cerveaux et ça va les marquer. C'est une génération qui sera différente des autres.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté aujourd'hui de toujours tout maîtriser alors que il y a plus longtemps, on acceptait une incertitude? Mais le fait de ne pas tout gérer, tout simplement.
Si vous voulez, on a cru qu'on était rentré dans une civilisation scientifique et technologique et c'est la plus belle que l'humanité n'a jamais eue. Mais l'idée qu'on aille chez notre médecin et qu'il nous dise « je sais pas quoi faire », franchement, il y a un an, ça nous semblait impossible. On nous donnait toujours des médicaments, on ne savait pas s'ils étaient toujours utiles, mais on sortait avec une ordonnance, quoi. Et là, vous sortez avec rien. Et là, effectivement, on revient à cette incertitude qu'est la vie. On n'est pas prêt à l'incertitude parce qu'on avait construit une société de certitude. Mais je pense que nos ancêtres, ils vivaient dans la peur permanente, leur vie était très courte. Et si vous voulez, ils essayaient d'en profiter au maximum. C'est un peu comme dans les guerres. Dans les guerres, on dit toujours que c'est des moments qui sont horribles. En même temps, c'est des moments d'amour très forts. Parce que si vous faites pas l'amour ce soir, demain, vous serez peut-être plus là. Donc, il y a intérêt à profiter de l'instant qui passe. C'est un peu ça, le changement.
Eh ben, on boit vos paroles, on a envie de suivre vos conseils. Merci beaucoup, Jean-Vierre. C'était formidable. Je rappelle votre livre, La page blanche, aux éditions de l'Aube.
Merci.
À suivre dans On défait le monde.
L'info pour briller. Le loser. Le jeu. Et il est 19h37. A tout de suite.
On défait le monde dans RTL. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
On a gardé ça du coup.
Ouais. Ouais, d'accord. Vous savez que ACDC sort son premier album depuis 6 ans là.
Mais l'album, il y a eu un titre, un single, mais l'album.
Première fois depuis 6 ans, c'est d'accord, pas pour briller, c'est cadeau, c'est comme ça. Non, c'est comme ça, c'est cadeau. Non, c'est gratuit.
Comme si en plus on était en avance dans l'émission.
Il est tel sa culture qu'il n'a pas. Allez.
Qu'il n'a pas surtout. La deuxième info pour briller au dîner, Brice, on parle NBA.
Oui,
basket.
Parce qu'en ce moment se joue avec quelques mois de retard à cause du Covid la finale NBA du championnat de basket américain entre Miami et Los Angeles. Et moi, je voulais vous parler plus particulièrement d'un joueur. James, 2 seconds, 1 second for the win.
Oh my God, LeBron James!
LeBron James, 35 ans, 2m06, 113 kilos. Eh bien, écoutez bien, il joue sa 9e finale NBA en 10 ans sur les 10 derniers championnats. Il n'en a raté qu'une seule. Toutes les autres, il les a jouées. Et avec 3 clubs différents, Cleveland, Miami et maintenant Los Angeles. Partout où il passe, LeBron James fait gagner son équipe, comme le disent les commentateurs américains. Putting his team on his back. LeBron James porte son équipe sur ses épaules.
Les Lakers, hein, c'est ça?
Les Lakers aujourd'hui.
Ah, les Clippers, les Lakers.
Non, les Lakers.
Oui, attention.
Soyons les précis. Jaunes et violets.
Merci Boris Dugénie. Deuxième info pour briller au dîner.
RTL. Le loser de la semaine.
On défait le monde, ton univers impitoyable. Et notre JR s'appelle Céline Landreau. À moins que ce soit plutôt sous Hélène. Bref. Chaque semaine, elle désigne le grand
plutôt,
perdant.
Plutôt, c'est vrai, c'est plutôt sous Hélène. Ouais,
le loser de la semaine. Et ce soir, Céline, c'est un sondage que vous avez dans le collimateur.
Oui, cette enquête d'opinion imaginée par l'IFOP qui a fait beaucoup de bruit.
C'est un sondage qui a du mal à passer. Un sondage qui m'a fait tomber de ma chaise.
Un sondage IFOP sur les tenues des lycéennes.
Qu'est-ce qu'une tenue correcte pour une fille au lycée?
Et là, alerte polémique. Comment doivent s'habiller les lycéennes? La grande question est parmi les propositions de l'IFOP.
Le no bra, un haut sans soutien-gorge, no bra en anglais, au travers duquel, je cite, la pointe de ses tétons est visible. 66% des sondés sont contre.
Oui, vous avez bien entendu, l'IFOP a le souci du détail, ça en a agacé certains. À commencer par Isabelle Saporta sur BFM.
Vous étiez obligé de rajouter le fait qu'il fallait voir ou non le téton?
Ah, obligé, on ne sait pas. D'autant que pour être sûr d'être bien compris, l'IFOP avait ajouté en légende de la proposition un dessin de femme en t-shirt, les tétons qui pointent. Alors le patron de l'IFOP, François Cros, a bien essayé de s'expliquer.
Nous, on n'a fait que mesurer l'opinion des Français sur un débat de société qui avait été lancé par les lycéennes et qui souhaitait mettre fin à ces règlements vestimentaires sexistes.
Mais peine perdue, la toile s'est enflammée, le monde politique aussi.
C'est surréaliste, c'est sectaire, c'est puritain de faire un tel sondage, c'est ce que disent certains élus.
Jean-Luc Mélenchon dénonce des sondages propagande pour la dictature des puritains. Le député Mounir Majoubi a déploré le piège de l'hypersexualisation et la réification du corps des femmes.
C'est ce que disent des féministes, c'est ce que disent des lycéennes sur les réseaux sociaux.
Moi, ce sondage, personnellement, il me fait gerber.
Un tollé, on vous dit, et pas grand monde pour défendre l'IFOP, à part le magazine Marianne qui a publié le sondage, il faut le dire. Marianne, c'est-à-dire le journal qui a comme symbole une Marianne portant le drapeau tricolore et surtout une femme au sein nu.
Voilà le titre de loser de la semaine attribué par Céline Landreau. Évidemment, comme tous les vendredis dans RTL Soir, nous avons pour les auditeurs, les auditrices, un cadeau.
C'est l'instant que vous attendez tous. Le jeu dont est fait le monde qui c'est vous cool. permet de remporter. C'est la musique de la roue de la fortune vintage des années 80.
Ah, c'est la roue de la fortune. Ouais.
Le jeu dont est fait le monde qui vous permet de remporter chaque c'est semaine un merveilleux cadeau. Et pour le découvrir,
c'est l'heure de Monsieur Cadeau.
Ah. Et Grégory Caranoni, réalisateur, et Monsieur Cadeau, double casquette lui. Racontez-nous un peu ce que vous cachez dans votre boîte magique ce soir.
C'est incroyable, vous avez de la famille, vous avez des amis, des colocs.
Ouais, calmez-vous quand même.
Des collègues, Brice ouais, Eugénie. Ouais. On peut vous partir à 4 au ski, une semaine. Oui, oui, une semaine. Pierre et vacances. Un appartement tout équipé. Cuisine, dans l'une des résidences Pierre et vacances, au cœur d'une des, 4, des 35 stations en France. Avoria, Les Arcs, Méribel, Chamonix. C'est donc une résidence Pierre et vacances. Il y a même une piscine chauffée, un spa. Moi, ça me va.
4
hein.
personnes, une semaine.
Mais c'est pas pour vous.
C'est non, un très sais. Beau cadeau. Non, c'est pour celui ou celle qui répondra à la question.
La question.
Attention. Comment s'appelle l'avion qui a créé la panique en passant à la vitesse du son au-dessus de l'Île-de-France cette semaine? Est-ce que c'est A, le Rafale, B, le léger coup de vent, ou C, la petite brise? Le Rafale, le léger coup de vent ou la petite brise? Si vous avez la bonne réponse, vous appelez 32-10, en tirant au sort parmi les gagnants, on passera un coup de fil. Une semaine au ski pour 4 à gagner.
Je la valide, votre question.
Ah, pour une fois.
Ah ouais, pour une fois, je l'aime bien, celle-là. 3-2-1-0, bonne chance à vous tous. Le standard est accessible à partir de top. Maintenant, il est 8 ans moins le quart.
RTL Soir, on défait le monde.
Dire retour quand on revient sur une info qui a fait la une et dont on parle moins aujourd'hui.
Et ce soir, on repart au Niger, où cet été, le 9 août plus précisément, des humanitaires français ont été pris pour cible.
Plusieurs Français ont été tués dans une zone sensible du Niger.
Un attentat meurtrier qui a frappé un groupe de travailleurs humanitaires.
6 Français ont été tués.
Emmanuel Macron a dénoncé hier soir la lâcheté de cette attaque meurtrière.
6 Français âgés de 25 à 50 ans, leur chauffeur et leur guide abattus froidement. Ils étaient jeunes, travaillaient pour l'organisation ACTED qui, suite à ce drame, a poussé un cri d'alarme sur le manque de protection de ces humanitaires sur le terrain. Brice, ça c'était il y a presque 2 mois. Depuis, les gens d'ACTED, ils sont retournés au Niger?
Oui, l'ONG est toujours présente dans ce pays. En fait, les équipes sont de retour sur le terrain. Je dis de retour car dans les jours qui ont suivi l'attaque, il y a eu un temps de réflexion, un temps de repos, presque de recueillement, une sorte de pause nécessaire pour toute l'organisation. Frédéric de Saint-Cernin est le directeur général délégué d'ACTED.
On avait besoin de nous poser, de réfléchir, de dialoguer avec nos employés sur place. On a fait venir des psychologues de Niamey et de Paris. Nous avons arrêté nos activités aussi bien au Niger qu'au Burkina Faso, au Nigeria, au Tchad et au Mali. Nous avons décidé de le faire pendant quelques semaines, à peu près 3 semaines. Donc cet échange, il était important. Je crois qu'il a été fructueux parce qu'après aller une petite semaine, on a repris en petit braquet. Maintenant, nous avons complètement réorganisé tout ça et repris des activités absolument normales.
Une reprise souhaitée par les équipes. Cela rejoint le communiqué publié par ACTED le jour de l'attaque. L'ONG avait déclaré que ce crime odieux ne la détournerait pas de son engagement auprès du peuple nigérien. Engagement tenu.
Brice, justement, l'ONG, elle fait quoi au Niger précisément?
Alors, cette organisation intervient auprès des populations déplacées, fragilisées dans la zone dite des trois frontières. Burkina, Mali, Niger, zone de guerre où agissent les groupes terroristes. Alors, il y a de l'aide alimentaire d'urgence, l'hygiène, l'assainissement. ACTED est au Niger depuis 10 ans dans ces endroits les plus reculés.
Et malgré le danger, il continue.
Oui, absolument. Et la raison se trouve dans cette réponse du directeur délégué.
Le risque zéro n'existe pas. Nous travaillons dans des zones qui sont particulièrement difficiles au Niger, où les besoins sont absolument obligatoires. On est dans des endroits où souvent il n'y a pas de présence des autorités, il n'y a pas de présence des services publics. C'est une aide vitale et on n'a pas l'intention de renoncer à cette mission. Si les humanitaires ne sont pas dans ces endroits, auprès des populations les plus vulnérables, les plus démunies, les plus éloignées des centres de décision, qui va venir en aide à ces populations? Personne.
Personne d'autre pour faire ce que les humanitaires appellent le dernier kilomètre, le plus compliqué, le plus dangereux, mais toujours le plus utile. ACTED le fait dans 38 pays, au Sahel donc, mais aussi en Syrie, au Yémen ou encore en Irak.
Il y a une enquête en cours, hein ?
Oui, il y a 2 juges français du parquet national antiterroriste qui sont en charge des investigations et qui travaillent en collaboration avec les juges nigériens.
Mais Brice, l'attaque a été, donc on sait, revendiquée par l'État islamique, mais on retrouvera finalement jamais les auteurs. À quoi ça sert cette enquête ?
Alors pour les auteurs, c'est vrai qu'il est peu probable qu'on puisse les arrêter. Le mobile, on le connaît, c'est c'est une manière pour le groupe terroriste d'entretenir le chaos et donc de prospérer sur ce chaos. En fait, l'enquête, elle permet dans cette situation de collecter des informations, de comprendre d'où venaient les djihadistes, comment ils ont opéré, comment ils se sont renseignés, bref, tenter de comprendre un peu mieux l'organisation du groupe, voire même parfois d'essayer d'en identifier des membres ou des chefs. C'est un moyen de comprendre un peu mieux pour peut-être éviter que cela ne se reproduise.
Merci Brice Dugénie, le billet retour de ce vendredi soir. Vous restez bien là dans un instant. La troisième info pour briller au dîner et puis...
Marche au rêve.
Marche au rêve.
Une histoire de loto, je vous dis pas. Ouais, restez là.
L'autodrive, hein, c'est ça.
Ouais. Vous savez tout.
Ah, on sait tout, ouais, tout de suite.
On défait le monde dans RTL Soir. On défait le monde dans RTL Soir. C'est l'heure de l'info pour briller au dîner.
C'est la troisième en ce vendredi soir. Il y a eu le rat africain de Laurent Tessier tout à l'heure.
Magawa, s'il vous plaît.
Pardon. LeBron James, la star de la NBA avec Brice Dugénie. Et Céline, donc, arrive pour cette troisième info pour briller au dîner.
Oui, Brice nous disait tout à l'heure qu'il avait passé le mur du son. C'était pas le premier. Et moi, je vais vous parler du pionnier.
Vous êtes sûr
ce
ah bon
soir.
Mais si, en fait, c'est ça, c'est moi.
C'est béton. Le premier homme à avoir passé le mur du son officiellement, il s'appelait Charles Yeager. C'était en 47, un pilote d'essai américain, héros de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce 14 octobre 47, Charles Yeager, qui s'est cassé d'ailleurs deux côtes la veille à cheval, réussit à s'installer tant bien que mal dans le cockpit d'un Bell X-1. Non, je vous assure, c'est vrai.
Non, mais d'accord.
Le Bell X-1, un avion fusée qui avait été dessiné d'après une balle de calibre 12 mm. L'avion est largué d'un bombardier, une tentative qui était filmée. Écoutez. Donc là, vous avez les commentaires. Charles Yeager pousse les moteurs à fond et à 10h18. Boum!
Ah ouais.
Voilà, vous l'avez entendu.
C'est le même que
Charles Yeager avait dépassé les 1230 km/h. Pas du tout. Il a franchi le mur du son. Il raconte qu'il n'y a pas eu de ballottement, pas de secousse et surtout pas de mur à passer. Il était vivant. Il a atterri ensuite en planant. Et c'est terminé parce que j'entends la.
Pas de ballottement, pas de secousse, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Pas de ballottement, pas de secousse.
Oh, le mec, il a un melon.
Quoi?
Troisième info pour briller au dîner. Ce soir, il est 19h52 déjà, ça file.
Marche ou rêve.
C'est votre moment quand vous nous racontez vos projets, vos envies, vos initiatives.
Ouais, et alors là, Laurent, on est sur quelque chose de totalement inédit.
Ah oui, après les courses au drive, le ciné-drive, vous savez, quand vous regardez un film sur grand écran, tranquillement dans votre voiture, bienvenue en cette époque des gestes barrières, de la distanciation physique, de fermeture des salles de fête, au loto-drive, le loto en plein air, la parade a été trouvée. Un événement était organisé dimanche dernier sur le parking d'un supermarché à Pleurtuy en Ille-et-Vilaine. Et l'organisateur s'appelle Brice Guadin. Il est président de l'association Human Braise. Bonsoir Brice.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors,
racontez-nous, comment vous est venue cette idée?
Mais elle nous est venue suite au dernier loto qu'on a fait dans une salle, qu'on a pu faire enfin dans une salle, où la jauge d'accueil était à 630 personnes et on s'est retrouvé à 210 personnes. Donc il a bien fallu trouver une solution de rechange, parce qu'il faut savoir que les associations qui font des lotos, en général, le font tout simplement pour générer de l'argent pour leurs frais fixes, déjà, voire pour leurs actions, ce qui est notre cas. Et qu'on se rendait bien compte, au vu de l'actualité, qu'on n'allait pas pouvoir continuer à faire des lotos dans les salles. Donc il a fallu trouver une solution. Effectivement, ce sont les Cinéma Drive qui nous ont donné cette idée-là. Après quelques renseignements, on a vu que c'était tout à fait faisable. Il suffisait juste de trouver quelques ajustements sur l'organisation. Et donc, nous avons lancé en 10 jours notre premier Loto Drive, qui était un succès.
Et comment s'est organisé ce Loto Drive, Brice? Racontez-nous, comment ça s'est organisé?
En fait, on a cherché qu'est-ce qui pouvait se faire par rapport au fait qu'on n'avait pas de table, que les gens ne pouvaient pas poser leurs jetons sur leur carton. Donc on a cherché des solutions toutes bêtes, c'est-à-dire de cocher avec des feutres Velleda ou des feutres Stabilo, les cartons qui sont plastifiés. Comment ne pas faire en sorte que les gens donc ne sortent pas de leur voiture, donc aller les voir avec tout simplement avec des caddies, puisqu'on a fait ça sur un supermarché partenaire à Pleurtuy. L'idée est venue comme ça, c'est-à-dire qu'on s'est dit il nous faut un lieu, mais il nous faut quand même un lieu couvert pour que en cas d'intempérie, ne serait-ce que pour le son, sachant qu'on a commencé avec des enceintes et qu'on est parti sur un système prochainement FM. Pour que les gens puissent entendre les
génial sur la radio de leur voiture. Mais le parking est couvert, il est quand même pas souterrain. Non, c'est en extérieur.
Il n'est pas souterrain, c'est en extérieur, il est couvert. Donc Voilà, la première idée, c'était l'un de nos partenaires à Pleurtuy, le supérieur de Pleurtuy, qui avait un parking couvert, c'était de l'appeler déjà, savoir s'ils acceptaient de nous prêter le parking. Ensuite, d'appeler la préfecture, savoir si tout ça ne posait pas de problème. Prévenir la gendarmerie pour leur faire comprendre que ce ne serait pas une réunion de gilets jaunes, puisque sur les bénévoles étant tous en gilets jaunes pour être marqués, seraient présents.
Et alors j'ai juste une question, quand on a
un dimanche, voilà, le parking allait être plein. Quoi.
Et quand on a une KIN ou une carton plein, on fait comment pour signaler du coup? Parce que normalement on crie KIN au carton plein, ouais.
Et ben, tout simplement on klaxonne.
Voilà. D'accord.
Alors ça, c'était le test en début de l'auto pour s'assurer que tous les klaxons fonctionnaient, qui n'a pas duré trop longtemps pour le voisinage, heureusement. Donc on leur avait indiqué qu'il fallait klaxonner et éventuellement lever la main par la fenêtre. On s'est rendu compte que les joueurs de l'auto sont très très prévoyant, puisque plein avait pris des drapeaux, alors soit de leur club de foot préféré, soit des drapeaux bretons.
Il y avait près d'une centaine de voitures, 240 joueurs ont répondu à l'appel qui était lancé sur les réseaux sociaux. Donc rendez-vous le 18 octobre pour le prochain l'autodrive à Pleurtuy.
Bravo pour cette initiative.
Merci.
On a un gagnant pour le jeu. Pour le jeu, c'est David de Caen qui est avec nous. Bonsoir David.
Bonsoir à tous, bonsoir à fine équipe.
Bonsoir. Bonsoir, on est ravis pour vous. Vous partez en ski.
Ouais, c'est super.
Vous savez avec qui vous allez partir?
Avec nous.
Avec la famille. Avec les blondés.
Bon, vous allez bien vous éclater. Il y a 35 stations prêtes à vous accueillir pour vous et votre famille.
Et la bonne réponse, évidemment, c'était le Rafale. Hein.
Oui.
Moi, j'aurais dit la petite brise.
Ça
c'est un peu le problème.
Rigolé.
Merci David de votre fidélité. Et bravo. Profitez bien, évidemment, il y aura un super cadeau vendredi prochain. On se retrouve avec toute l'équipe pour défaire le monde comme tous les vendredis.
À la semaine prochaine.
Le gagnant, Céline.
Ouais.
Bon, au hasard.
Allez, hop.
J'aurais mieux fait de me taire.
Le colonel Moutarde.
On défait le monde dans RTL Soir.